servi et par la suite il n'y en aura plus.
Didn't see anything.
Je n'ai rien vu.
For me, please, so we can get this started.
I am told, by the way, that
on nous a dit que nous avons besoin d'environ 45 minutes s'il n'y a pas de circulation routière, mais il y en aura, et le lieu sera assez envahi par la foule. Par ailleurs, il paraît que l'endroit, le lieu, est absolument splendide. Hors micro, nous ne l'entendons pas. Je suis sûre, c'est peut-être écrit sur le billet. Heidi en sait quelque chose. Oui, il y aura des navettes de l'hôtel. Je crois que l'information est écrite sur le billet. Elle sera également sur le site web.
Thank you very much. You are both live.
Merci infiniment. Nous sommes, on nous rappelle par les interprètes que le français et l'espagnol ont besoin de plus de mots que l'anglais, donc laissez-leur le temps de traduire. Mesdames et messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions administratives, nous allons passer au premier point de l'ordre du jour. Pour ceux qui n'étaient pas dans le coma les derniers mois, une des questions les plus importantes est concernant la candidature pour le nouveau GTLD. Un des points était l'intégration verticale pour que les registres et les bureaux d'enregistrement aient un niveau de collaboration. Actuellement, il y a des restrictions concernant la propriété des GTLD existants, ainsi que des restrictions, même s'il y a une opposition, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous avons avec nous les vice-présidents des groupes de travail, Roberto Gaetano et Mackie O'Connor. Le groupe de travail s'est réuni, je crois, tout de suite après Nairobi. Au départ, nous nous réunissions une fois par semaine et puis deux fois par semaine jusqu'à la conférence. Nous avons eu environ 2000 courriels échangés, sans parler des messages privés, des discussions privées qui ont eu lieu entre les parties. Il y a eu un grand nombre de propositions sur la table et il n'y a pas de consensus concernant la voie à suivre. Et si j'ai compris, nous avons environ jusqu'à août pour arriver à une conclusion. Sinon, le conseil d'administration prendra une décision et procédera avec la version du guide de candidature. Qui va commencer le premier? Je vous passe la parole. Je suis Mikey O'Connor, je suis le jeune vice-président, donc je fais tout le travail. Et Roberto, qui est plus vieux que moi, il joue au football. Moi, je suis au milieu du terrain et c'est Roberto qui lance le ballon ou qui touche le but. Je vais vous montrer quelques transparents et Roberto en parlera par la suite. Merci infiniment pour votre invitation à notre réunion. Je suis très heureux d'être ici. Si jamais je dévie un peu de la réalité, de la situation réelle, je m'attends à ce que vous nous fassiez des commentaires. Nous avons essayer d'avoir notre propre nom de domaine, mais ceci n'a pas bien marché. Lorsque nous sommes rendus compte combien cela allait coûter. Et c'était l'idée de Sébastien. Nous voulions avoir le GWD. Je suis désolé, j'ai pas saisi le nom du domaine qu'il voulait avoir. Le problème est que après la candidature, le temps d'avoir la candidature, de déposer la candidature, le nom aurait disparu. Bon, je vais passer au deuxième transparent quand même. Voilà, j'essaie d'arriver, de passer. Je vais passer, je vais utiliser 5 à 10 minutes. Il s'agit d'un programme très agressif, essentiellement. Nous devons arriver à nos conclusions sans retarder le déploiement des nouveaux GTLD, et ceci se trouve dans les phases finales, comme vous le savez. Pour résoudre certains problèmes, ce que nous faisons, c'est 2 PDP pour le prix d'un. Le premier PDP, sur lequel nous travaillons maintenant, a couvert 2 réunions. Nous avons commencé à Nairobi. Nous allons finir avec Cartagena. Il aura été établi entre-temps, donc, comme Alain l'a mentionné, je pense que nous pouvons passer au transparent suivant. Qui est en train de m'aider, là, avec les diapos? Ah, merci. Je peux vous appeler par votre premier nom, n'est-ce pas, par votre prénom? Mathias, très bien, alors. Bon, merci Mathias. Quelques faits. Nous sommes un peu en retard. Environ 3 semaines en retard sur le calendrier. Après Nairobi, que nous avions établi après Nairobi. Mais ce n'est pas pour ne pas avoir essayé. Nous faisons un processus qui prend en général une année et demie, quelquefois 11 ans. Cela dépend du sujet. Et nous essayons de le faire en environ, dans un délai de 180 jours. Je pense que nous allons pouvoir le faire. Mais nous sommes également un groupe très, très, très élargi. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le sujet. Et si nous incluons les personnes de la LAC, ceux qui ont participé et qui ont apporté des apports et des contributions très importantes à ceci. Je voudrais vous remercier avant de continuer. Je remercie toutes les personnes pour tous leurs efforts dans les commentaires et les contributions. Une des choses qui caractérise ce groupe de travail, c'est que nous avons beaucoup d'allers-retours de messagerie. Environ 2000 messages. Et ceci, ça se compare uniquement aux enregistrements frauduleux, au groupe de travail sur les enregistrements frauduleux. Pour vous donner un chiffre de comparaison, nous avions uniquement un échange de 500 messages. Ici, nous avons déjà 2000 messages. La structure, nous avons développé des propositions. Nous avons commencé par 12 propositions. Et nous sommes en train de les filtrer, de les réunir, de les raffiner, et nous sommes pour y arriver à 2-3 propositions. Nous, ce qui est important, c'est le temps Internet, le temps réel. Certains de ces faits sont de vieux de 3 jours. Nous arrivons, nous procédons très rapidement. Nous essayons de procéder aussi rapidement que possible. Je vais passer au deuxième, au transparent suivant. En fait, Roberto et moi, nous provenons d'un contexte de chimiste. Mon père était un chimiste, il a travaillé sur les bombes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Roberto travaille pour la commission de l'énergie atomique. Et nous avons utilisé notre énergie et les molécules. Nos propositions sont des molécules, donc. Et les éléments des propositions sont... Et ce que vous regardez ici, sur votre écran, sont les résultats de la réunion que nous avons eue ici à Bruxelles. Qu'est-ce que nous avons fait? nous avons établi une liste des atomes qui étaient les plus importants pour nous et pour le processus. Et puis par la suite, nous les avons classifiés. Et quand je les ai mis sur le transparent, je les ai déclassifiés. Je les ai groupés par sujet. Mais ce qui était très très intéressant et surprenant, c'est que les atomes en haut de page, en première place, avaient affaire avec la capacité et le désir de l'ICANN de devenir une entité d'application, d'imposition et de conformité. Et la raison, je vais vous présenter non seulement le récapitulatif, mais c'est pour aviser également la discussion, il faudrait penser au fait que combien de ce que vous êtes en train de proposer s'ajuste sur une fonction de conformité, sur la présence ou sur l'hypothèse que la fonction de conformité sera là ou ne sera pas là. Ceci semble être la question qui souligne un grand nombre de difficultés que nous avons dans les groupes de travail quant au fait d'atteindre, de parvenir à un consensus. Nous, dans les groupes de travail, nous serions très intéressés parce que vous auriez à dire. L'atome suivant a affaire avec la question essentielle, le contrôle, les restrictions, si les restrictions sont uniquement au sein des TLD, si elles concernent l'organisation, quel est le rôle des fournisseurs de services de registre, si c'est un mix. Ceci est au cœur de la recommandation. C'est ce qui va être traduit dans toutes les langues. Et toutes les propositions abordées, et comme Alan a dit, nous avons des opinions qui divergent, qui ne sont pas d'accord. Je serais très intéressée par écouter vos opinions. Et le point suivant a affaire avec les exceptions. Il y a une variété d'exceptions. L'une d'entre elles est ce que nous commençons à appeler le titulaire de nom de domaine unique. Nous avons donc l'utilisateur unique ou le titulaire de nom de domaine unique. Il y a une différence donc entre single registrant et single user, où donc il contrôle le site, le contenu, mais il y a également le titulaire de nom de domaine unique mais à utilisateur multiple, où il y a une distribution vers les employés, les vendeurs, des personnes en dehors de l'organisation, et ces personnes auraient la possibilité aussi de contrôler le contenu, de maîtriser le contenu d'un site web. Il y a donc ici quelques distinctions subtiles. Il y a également d'autres exceptions, par exemple concernant un nom de domaine orphelin, ils n'ont pas trouvé un bureau d'enregistrement pour le vendre. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une exception pour la communauté, pour les noms de domaine communautaire, de type communautaire? Nous avons eu des discussions sur une variété d'exceptions et évidemment, les exceptions, Adam, sont également, constituent un chapitre important. Et enfin, nous nous sommes concentrés sur le fait s'il y avait une solution permanente à long terme ou bien une solution intermédiaire où nous, l'ICANN, pas le groupe de travail, nous informons, nous révisons les décisions que nous avons prises 18 mois plus tard, 3 ans plus tard. Donc ici, nous avons les dimensions, si vous voulez, de la discussion. Il y a un autre nom, un certain nombre d'autres atomes ou items. Je pense qu'il s'agit du dernier transparent. Ah, nous avons encore un transparent avec les prochaines étapes. Nous allons conserver une seconde ce transparent et passer à un autre document. si vous voulez bien patienter. Donc, cette semaine à Bruxelles, donc la partie suivante de cette réunion de samedi, nous avons assemblé deux molécules. Je vais vous récapituler rapidement. Je suis en train de résumer une discussion très très compliquée. Et les positions sont en changement, sont en train de changer encore. Donc je ne voudrais pas que vous croyiez qu'il s'agit de propositions ou de positions du groupe de travail. Je suis en train seulement de les présenter en tant qu'exemple pour vous donner une idée, pour que lorsque vous aurez votre discussion, vous sachiez un peu de quoi on a parlé. Donc il y a un débat pour voir s'il y a des limites qui sont applicables à tous les TLD ou uniquement aux TLD qui s'enregistrent même. Je crois que je vais laisser ça ici. Je vais laisser ce point tel quel. De 2000 mails en quelques mois, comme je l'ai dit au départ. Enfin, nous avons la propriété et le contrôle. En deuxième point, les discussions se sont toujours concentrées sur le pourcentage de propriété. 15%, 0%, 100%, 2%, des chiffres différents. Mais, ce qui est clair, c'est qu'on a besoin également de penser au contrôle entre ces entités. Il est possible pour une entité d'avoir environ presque pas de propriété croisée et contrôler quand même l'entreprise par un autre moyen, par le biais de contrats. Donc, une des distinctions clés est qu'il y a une différence entre la propriété, la possession et le contrôle. La problématique clé, en fait, est le contrôle, beaucoup plus que la possession ou la propriété, le « ownership », comme on dit en anglais. Nous avons parlé des exceptions et nous avons mentionné les fournisseurs de services de registre. Une des choses qui émerge est la possibilité d'introduire de nouveaux accords entre l'ICANN et diverses entités. Et Alan a une idée qu'il vient de me dire avant de nous asseoir. Il est typique pour ce groupe de travail, ça change d'heure en heure. Une des idées qu'on a eues samedi est d'avoir l'introduction de nouveaux accords entre l'ICANN et les fournisseurs de services de registre, qu'il y aurait une relation contractuelle qui n'existe pas encore. Bon, je ne vais pas donc voler son temps à Adam, il en parlera lui-même plus tard. Ça, c'est parce que je suis le junior, le jeune vice-président. Donc, je dois me taire et passer la parole plus tard aux autres. Donc, il s'agit d'une autre dimension. Qui a des accords avec qui? Qui a conclu des accords avec l'ICANN? Est-ce qu'on a une référence suffisante à la question de conformité? Le groupe, nous sommes plus proche de parvenir à un consensus sur la conformité, en fait. Nous sommes tous convaincus que quelque chose doit être fait en matière de conformité, même s'il y a des différences, des opinions diverses concernant l'organisation. Et ce n'est pas non plus clair pour moi. C'est une question qui peut être toutefois résolue au sein, dans le cadre de notre champ d'activité. C'est une question fondamentale pour l'ICANN et il est clair que la conformité fait partie et est une grande partie de la discussion. Et je suis sûr que lorsque vous en parlerez, vous aurez tous quelque chose à dire sur la conformité. Nous allons passer au dernier transparent, qui sont les résultats possibles de la réunion de Bruxelles. En fait, nous en avons trois. Un serait que nous confirmerions que nous en tant que groupe de travail que nous ne pouvons pas parvenir à un consensus et nous allons nous arrêter parce que nous n'avons plus de temps. Et nous allons passer à un rythme plus lent vers un deuxième PDP à plus long terme. Personnellement, en tant que vice-président, je ne pense pas que ceci va se passer. Je pense qu'au contraire, nous allons voir beaucoup de progrès vers le consensus. Nous allons demander un peu plus de temps et nous pourrions également parvenir à un consensus, une position consensuelle, ici, à Bruxelles. Et dans ce cas-là, nous continuerions, nous poursuivrions. Nous avons eu une séance de mise à jour le dimanche avec Virginia et nous avons entendu très clairement que le calendrier n'était pas assez agressif, qu'il fallait faire ceci très rapidement, et nous allons le faire. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous allons parvenir à un certain consensus sur une ou deux propositions que nous allons transmettre très rapidement au Conseil, par le biais, bien sûr, du cercle de consultation publique, pour que nous atteignions et nous respections le délai de la fin de l'été. Roberto, est-ce que vous voulez continuer, poursuivre?
Eh bien, Mikey a décrit nos actions, c'est-à-dire ce que nous faisons pour vous. Alors, c'est à mon tour de vous dire ce que vous pouvez faire pour nous. Ce groupe de travail se caractérise par une sorte de combat entre les enregistrants et les bureaux d'enregistrement qui sont opposés par une sorte d'intérêt commercial, économique, plutôt que sur un combat qui oppose les intérêts des nouveaux entrés par rapport aux plus anciens. Donc nous devons essayer de voir comment nous pouvons encore, les bureaux d'enregistrement peuvent encore gagner de l'argent, etc. Et donc dans cette discussion, un point de vue court le risque de ne pas apparaître au tableau. Et donc, celui-ci est l'intérêt des registrants et l'intérêt des utilisateurs. Et je pense que c'est une question que la LAC est déjà bien prête. C'est une question que la LAC est prête à répondre. Et donc, c'est ce que nous attendons de Alan et des autres personnes appartenant à ce groupe de travail. Mais pour parler de façon très pratique, très concrète, eh bien, nous avons par exemple le point de vue selon lequel la séparation actuelle qui favorise la concurrence entre les bureaux d'enregistrement est en fait avantageuse pour les consommateurs parce qu'elle permet de maintenir des prix bas et donc favorise le registrant. Par conséquent, elle favorise la présence sur le marché de différentes possibilités de choix qui, bien sûr, sont à l'avantage du consommateur. Par contre, nous avons aussi des situations, par exemple, des TLD basés sur la communauté, des TLD potentiels qui ne seront pas à même d'opérer si ils se voient obligés à travailler selon les règles actuelles du marché, c'est-à-dire d'utiliser les bureaux d'enregistrement accrédités. Et donc, D'une part, nous avons le bénéfice de la concurrence du point de vue du consommateur, alors que d'un autre point de vue, et c'est la séparation verticale, nous sommes obligés à ajouter une couche qui n'est pas, qui ne favorise pas la concurrence et les clients. Donc il s'agit davantage de TLD, de communauté, etc. Je pense donc que nous souhaiterions que la LAC se penche sur cette question et y contribue en émettant des propositions claires, ceci à l'égard du reste du groupe, sur les questions liées à ce problème. Et il vous sera peut-être possible d'entrevoir d'autres sujets qui portent également sur l'intérêt du consommateur. Nous n'avons peut-être pas suffisamment débattu et nous courons le risque de passer à côté d'éléments importants lorsque nous élaborerons la solution de compromis. Donc j'aimerais en discuter avec la LAC, c'est-à-dire les différentes solutions, les différentes implications par rapport aux atomes, c'est-à-dire si la LAC souhaite prendre position ou souhaite émettre une contribution, eh bien ce sera utile pour également pouvoir peser l'avis des consommateurs. Sinon, on ne se portera que sur un côté des parties. Merci beaucoup. Vous avez en fait, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Vous avez dit tout ce que je voulais dire. Alors, évidemment, nous sommes très en retard par rapport à l'agenda d'aujourd'hui parce que nous avons commencé très tard. Donc, nous tenterons d'être brefs, sans quoi nous ne parviendrons pas à compléter l'agenda d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut nous concentrer sur les vraies questions dans ce groupe, qu'il s'agisse des registrants ou des bureaux d'enregistrement ou des nouveaux GTLD. Il y a des tas de gens qui se battent pour leurs propres intérêts, tandis que très peu de personnes considèrent les nuisances potentielles et l'écosystème général et s'assure de ne pas baser nos décisions sur la précipitation et qui s'avéreront mauvaises par l'avenir. Donc ceci sera le sujet de la discussion de la prochaine réunion lorsque nous reprendrons dans une bonne heure. Pour vous donner un aperçu, Mikey a donné la définition théorique. Alors, j'essaierai de vous donner, moi, une perspective des différents éléments que nous avons vus. Ce qui change, c'est notre situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire une limite de 15%, donc une limite stricte, qui ajoute des RSP dans la limite, c'est-à-dire pour les fournisseurs de services, et l'autre extrême, c'est-à-dire une dérégulation totale, une liberté totale du marché, et certains ont trouvé qu'ils pouvaient, cette solution pouvait être convenable, parce que si des problèmes survenaient, on pourrait y trouver une solution. Malheureusement, ça fonctionne dans d'autres mondes, pas celui dans lequel nous vivons. Et une fois qu'on signe un contrat, on y est juridiquement lié. Donc évidemment, les propositions ont été très variées. Il s'avère que ceux qui ont exprimé le désir d'une liberté entière ont accepté qu'à cette étape, ils risquaient d'échouer. Donc nous reprendrons cette discussion lors de la prochaine séance. Oui, pardon, en ce qui concerne l'autre extrême, parce que j'ai oublié d'inclure ceci dans mon introduction, c'est la situation actuelle, c'est-à-dire le conseil d'administration a demandé une résolution à Nairobi qui parlait d'une propriété nulle, de 0%. Et donc, À présent, il s'agit d'une limite de 2%. Donc nous avons la fourchette de 0 à 100% représentée parmi tous ces extrêmes. Mais si le consensus n'est pas atteint, eh bien la situation actuelle sera maintenue, c'est-à-dire une limite de 2%. Pardon, je ne suis pas d'accord. Je voudrais d'ailleurs montrer que nous ne sommes même pas d'accord sur les faits. Par principe, le guide de candidature actuel passe de 2%. C'est l'approximation émise par le Conseil. Mais il y a également une disposition qui stipule que si un consensus n'est pas atteint, le Conseil d'administration devra revoir cette limite. Donc il ne s'agit pas d'une situation réelle, mais bien d'une menace. Une question de la part de Hank qui doit nous quitter rapidement. J'aimerais donc que nous nous efforcions de poser le moins de questions possible pour que nous ayons la possibilité d'organiser la séance suivante. Hong, merci Alan. Je suis parfaitement d'accord avec Roberto. Il ne s'agit pas uniquement des enquêtes économiques sur les bureaux d'enregistrement et les registrants. Il s'agit également de l'impact sur les intérêts des consommateurs. Je suis parfaitement d'accord avec le fait que vous travaillez dur sur la question de la propriété croisée. C'est un sujet difficile à définir, même pour les avocats d'affaires, mais en plus, vous n'avez pas beaucoup le temps de faire réaliser ce travail. Mais j'ai une petite question, non seulement pour ce sujet-là, mais pour tout le nouveau programme GTLD. Je vois clairement que dans la version 4, votre travail a été pris en compte. On dit que la situation actuelle de propriété registrant et bureau d'enregistrement vous propose des solutions. Donc, je vous propose deux possibilités, un PDP à long terme et l'autre, j'espère, un PDP à court terme. S'il s'agit d'un PDP à long terme, eh bien, ceci signifiera que le programme prendra du retard. Et bien sûr, les utilisateurs en pâtiront, en particulier en termes d'IDN et de GTLD. Il y a de fortes attentes. J'aimerais répondre à cette question. Il est clair que notre travail ne retardera pas le nouveau programme GTLD. Si nous ne prenons pas le train, eh bien, il partira sans nous, c'est simple. En fait, en termes de durée, je pense que Bruxelles représente la limite officielle, mais jusqu'à où nous pouvons encore travailler. Nous avons alors la période de commentaires publics et ensuite le GCSO doit être considéré par le Conseil. Et donc, le mois d'août devrait constituer la limite. Évidemment, ce n'est pas beaucoup de temps parce que les deux prochains mois seront sûrement consacrés aux vacances. Et Semi, du comité Asie-Pacifique, pardon. J'aimerais savoir s'il y a des considérations sur les raisons de distribution des bureaux d'enregistrement, parce que je sais que jusqu'à présent, il ne s'agit que des États-Unis et de l'Europe. Pourquoi n'y en a-t-il pas dans la région Asie-Pacifique? Et si les règles sont considérées de façon stricte, eh bien, il semble que si ces registres ne sont pas situés en Asie-Pacifique, ceci n'est pas en conformité avec les règles de concurrence. Oui, je pense que c'est un excellent exemple du type d'information que nous aimerions obtenir de la part d'ALAC. C'est très commun dans les groupes de travail, effectivement, mais ça ne fait pas partie des questions principales. Bonjour. Ici, je m'exprime surtout au sujet de mon ALS. Et donc, pour poursuivre cette analogie, j'aimerais vous donner un exemple. L'une des préoccupations que nous avons eues, c'est que, comme Roberto l'a dit, ceci semble être une dispute sur les modèles d'entreprise plutôt que sur la concurrence, c'est-à-dire la question de savoir si les bureaux d'enregistrement doivent aller directement vers le public ou si un intermédiaire est nécessaire. Et il semble reconnu que, dans la mesure où nous avons peu de domaines et de TLD, une certaine réglementation serait nécessaire. Mais pourrons-nous reconsidérer cette décision lorsque les TLD se seront multipliés et considérer que ce type de limitation ne sera plus utile? Et jusqu'à présent, j'ai essayé de soulever la question parce que ceci porte préjudice à la crédibilité d'ICANN. Ça devrait porter sur les modèles d'affaires, mais lorsque l'on parle de la falsification d'informations et le phishing, etc., ce sont des questions qui sont de moins en moins abordées. Et lorsque l'on tourne cette question en un sujet de modèle d'affaires plutôt que d'intérêt du public général, ça pose problème. Et je ne sais pas si on a déjà considéré qu'il s'agissait d'une sorte de combat basé sur l'argent, finalement. Donc, pouvez-vous nous dire si cette théorie sera révisée une fois que nous aurons davantage de TLD? Oui, eh bien, c'est pourquoi nous avons deux PDP pour le prix d'un. Le type de modèle que vous décrivez en fait partie. Et dans de nombreux cas, nous ne disposons pas des faits. Nous avons besoin, bien sûr, d'études économiques. Nous avons besoin de tout type d'informations dont nous ne disposons pas pour l'instant. Nous n'en avons pas le temps. Et donc, évidemment, il subsiste ce conflit fondamental entre l'allure du GTLD et le désir fort de la communauté de ne pas le retarder et en même temps le désir d'élaborer des solutions pour les types de problèmes que vous citez. Donc, le groupe de travail doit se concentrer sur les éléments auquel il s'est accordé et qu'il peut soutenir rapidement et les inclure dans le guide de candidature. Bien sûr, il doit prendre en compte ces questions, il ne doit pas les laisser de côté, mais pour l'instant, il ne s'agit pas des questions principales. Et donc, la plupart des questions de ce type n'ont pas encore fait partie de la conversation, comme vous l'avez soulevé, parce que simplement nous n'avons pas encore en notre possession les éléments nécessaires pour mener cette conversation. Autre chose avant de poursuivre. Pardon, Sébastien, prenez la parole. Je commencerai en anglais et ensuite je reprendrai en français pour que vous ayez le temps de prendre vos casques. Alors, premièrement, Mikey Roberto, un grand merci. Premièrement, le travail consistant que vous effectuez afin d'essayer de parvenir à un consensus dans un grand groupe, ce qui est difficile. Et la deuxième chose, eh bien, c'est la première fois, il me semble, que nous avons des présidents de groupes de travail qui ne sont pas à large et qui viennent parler d'autres sujets que ceux auxquels nous sommes déjà engagés. Donc je pense que c'est un excellent signe. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer au français.
Je pense que la difficulté de ce groupe de travail, c'est son nombre, mais c'est aussi quelque part qu'on voudrait en quelques semaines se dire est-ce que le capitalisme est le meilleur système économique mondial ? Puisqu'on se pose la question de l'organisation du marché, est-ce qu'il faut le réguler ? Est-ce que c'est bien de laisser le marché décider tout seul ? Et je ne vois pas bien pourquoi et comment est-ce que l'ICANN et ses 70 participants dans un groupe de travail pourraient arriver à un consensus. Je suis personnellement mais totalement personnellement, contre la liberté du marché complète. D'ailleurs, la crise financière nous a montré qu'il fallait un minimum de régulation mondiale. Donc, si on a pour thème de dire « je veux le marché libre » et sinon l'ICANN ne fait pas son travail, je pense qu'on est à côté de la plaque dans la recherche d'un consensus. On ne sera pas tous contents, on sera mécontents du consensus, mais si on veut le chercher, il faut que chacun fasse des pas en avant. Donc, personnellement, je serais pour une séparation et une régulation complète. Mais il y a d'autres qui pensent qu'il ne faut pas qu'il y ait de régulation, donc essayons de trouver un juste milieu. Et je pense que ce qu'a dit Alan en commençant sa discussion en disant « il faut réfléchir à quelles sont les étapes que nous pouvons faire aujourd'hui qui ne sont pas irréversibles, qui permettront dans l'étape suivante d'aller plus loin en fonction de ce qui sera passé à la première étape » est quelque chose que nous devrions avoir en tête à tout moment, parce que c'est ce qui pourrait nous permettre de trouver un consensus. Ensuite, la question du pourcentage ou de la façon dont on va faire cette régulation est aussi une discussion qui va prendre du temps. Ce que effectivement je trouverais intéressant, c'est que aujourd'hui, dans la discussion qu'on peut avoir ici, il y a une expression très forte des régions et des gens qui ne participent pas au groupe de travail. Parce que je pense que la vision nord-américaine et ouest-européenne n'est pas une vision du monde, et qu'on a besoin de la vision des autres pour faire cette vision du monde. Voilà, je m'arrêterai là parce que je pense qu'Alain va me dire que je prends trop de temps. Merci.
Two points. First of all, we've already used completely up the time that David Giza had to talk about and us to talk about compliance. So.
Je pense que malheureusement nous n'avons pas beaucoup le temps, mais j'aimerais que nous établissions une discussion entre nous-mêmes et non pas simplement que ce soit nous qui dirigeons cette discussion. Alors, d'autres questions peut-être du cybersalon, quelqu'un qui nous regarde en ligne? Non, s'il n'y a rien d'autre à faire dans cette séance, eh bien, peut-être pouvons-nous la clôturer? Si vous n'avez rien d'autre à dire de la part du At Large Committee, eh bien, j'aimerais que nous clôturions et ensuite nous donnerons la parole à David Giza qui s'est assis patiemment à côté de nous. Je vais commencer parce que je suis l'officier junior. Sébastien, j'aimerais répondre à ce que vous avez dit parce que finalement ça fait allusion à ce que j'avais expliqué auparavant. Certaines questions sont très profondes et sont au cœur de la mission même de l'ICANN. Et je pense que ceci correspond bien à la remarque d'Alan. Premièrement, le but, c'est de ne pas nuire, n'est-ce pas? Nous devons parvenir à un équilibre dans de nombreux domaines. Et nous aimerions beaucoup revenir dans ces comités, dans ces réunions. Et nous vous remercions de votre invitation.
À la question posée en français, je répondrai en français. À mon avis, mon point de vue, c'est pas que ce groupe de travail doit trouver un nouveau système, sortir du capitalisme ou affirmer mieux le capitalisme. Je crois qu'il s'agit tout simplement du fait qu'on a une situation aujourd'hui, des règles aujourd'hui qui sont pour la séparation complète. Est-ce que on peut introduire dans des situations au tout début limitées des autres modèles qui ne sont pas la séparation? Est-ce que ça est possible? est-ce que ça est utile ou pas. Et à partir de cela, après une expérimentation des nouvelles règles qui seront proposées par le Conseil sur la gestion de ce groupe de travail, si on arrivera, après une période d'expérimentation, on pourra se poser la question à plus long terme si, au fait, le modèle de la séparation doit être révisé totalement ou s'il faut revenir en arrière ou on verra après, dans deux ans ou quand, si on doit réviser la situation. Pour ce qui est de la participation, c'est vrai, je crois que Sébastien a tout à fait raison, mais le groupe de travail a les gens qui est composé des gens qui sont venus et sont prêts à travailler dans ce groupe de travail. Avant de prendre la coprésidence de ce groupe, j'ai envoyé un petit message sur la liste d'ALAC pour dire il y a ce groupe de travail, il me paraît qu'il n'y a pas trop de monde qui, du point de vue des utilisateurs. Donc c'est une petite chose qu'on a pu faire, mais au fait, si on regarde la composition du groupe, c'est vrai que la majorité est en Europe et aux États-Unis. Une petite anecdote, tout brièvement, on devait décider l'heure des téléconférences. Les téléconférences sont le soir pour l'Europe et la journée pour les États-Unis. C'est en plein milieu de nuit pour l'Asie. Là, j'avais proposé de faire une rotation, mais au fait, on n'a pas pu le faire parce que en toute l'Asie, il n'y avait que deux participants et au fait, avec un groupe de 70 à 80 personnes, on ne peut pas obliger la vaste majorité à se lever en plein milieu de la nuit, malgré, moi, je l'avais fait très volontiers. Est-ce que les gens de l'Asie ne participent parce que les horaires sont prohibitifs ou est-ce que les horaires sont prohibitifs parce que il n'y a pas de pression de la part de cette région du monde. Ça, c'est une question qui est ouverte.
Thank you. I thank Mikey and Roberto and.
Merci. Je remercie Mikey et Roberto. Et je vais prendre maintenant une minute pour changer nos positions autour des tables et souhaiter la bienvenue à David Kisa.
Most of you know David, who took over responsible for ICANN compliance about a year and a half ago?
Mm-hmm.
And we have a 20-minute allocation which expired 15 minutes ago. I'd like to give David.
Nous avons donc eu une introduction brève il y a 15 minutes. J'aimerais donc que maintenant David ait autant le temps de s'exprimer qu'il peut que possible. Nous allons lui donner la parole et nous espérons qu'il y aura des questions et un dialogue. Merci Alan. Bonjour à mes collègues ALAC. J'essaierai d'être très rapide dans la mesure où je n'ai que 20 minutes pour couvrir différents transparents. Et j'aimerais évidemment qu'il y ait aussi du temps pour les questions parce que malheureusement de nombreuses questions devraient être posées et nous n'en avons pas le temps. Alors, rapidement, je vais partager l'ordre du jour avec vous. Et bien sûr, je devrais fortement me limiter. Je pense qu'il est important de réviser la mission du programme de conformité contractuelle et sa mise en œuvre. Je veux également parler avec vous de nos activités de mise en œuvre, également passer en revue l'IRTP et le test bêta qui est en ce moment en cours. Nous avons également d'autres missions clés de conformité. J'aimerais m'étendre davantage sur les efforts de communication actuels et d'outreach. Et j'aimerais que vous nous contactiez si vous avez des questions sur la conformité au sein de ICANN. Alors, c'est un peu difficile à lire parce que les couleurs sont assez mauvaises, mais il y a principalement 6 modules dans le programme de conformité contractuelle. Et vous voyez à gauche que nous sommes parvenus à résoudre les conflits avec près de 140 bureaux d'enregistrement et 16 registrants. Nous avons mis en œuvre des actions de correction afin de respecter la conformité des contrats. Et ceci signifie des activités particulières de mise en œuvre des politiques de consensus telles que l'URDP et l'IRTP. Et le travail bien réalisé doit être toujours contrôlé. Je vous parlerai également du contrôle. Nous nous portons également sur la communication avec tous les différents groupes que nous servons grâce à notre site internet, des lettres d'information et nos différents programmes pour atteindre les communautés du monde. Enfin, nous abordons les questions pour lesquelles l'attention est nécessaire. Par exemple, vous serez heureux de savoir que la conformité fera partie de nombreuses discussions à l'avenir. Et je pense qu'hier, vous avez dit ou entendu que ICANN fera tout ce qui est en son pouvoir pour investir dans un programme de conformité afin de soutenir le travail des différents groupes de travail. Donc passons à la mise en œuvre. Comme vous le savez, nous avons travaillé très dur, et ceci au cours des 2 dernières années, pour identifier et parfois également terminer le contrat de bureaux d'enregistrement qui n'effectuaient des activités qui n'étaient pas conformes. Donc nous avions 20 bureaux d'enregistrement dont le contrat a été auquel il a été mis fin pour différents problèmes. Cette année, nous avons 10 bureaux d'enregistrement au cours des 6 premiers mois de 2010 dont le contrat a été terminé, et si ceci se poursuit, nous parviendrons à 20, voire 25 bureaux d'enregistrement. C'est très bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous pensons que nous pouvons en faire encore davantage. Et aujourd'hui, vous m'entendrez également au cours de la conférence par rapport au besoin de poursuivre l'investissement dans la conformité en termes de ressources et d'outils technologiques afin de nous assister dans cette mission continue qui nous a été confiée. Depuis Nairobi, il y a eu 6 fins de contrat. Nous avons eu 5 avis de rupture de contrat. Et ceci est important. Près de 400 avis de mise en œuvre. Et qu'est-ce que c'est un avis de mise en œuvre ? Eh bien, nous avons envoyé des avis à des bureaux d'enregistrement qui sont en non-conformité avec nos normes. Nous faisons passer des plaintes et nous envoyons ensuite des avis à des bureaux d'enregistrement qui ont été identifiés par les consommateurs car leur système n'est pas conforme. Et nous envoyons également des avis pour que les bureaux d'enregistrement analysent les incorrections de WHOIS, par exemple les problèmes de données en termes de WHOIS. Et donc, par an, nous avons environ 300 à 400 avis de fin de contrat qui sont envoyés. Nous avons également nous avons à traiter les plaintes des consommateurs. Nous en avons près de 3000. Vous pouvez les retrouver sur le tableau de bord. Si vous allez sur notre page sur le site web, vous verrez que cette page a deux graphiques qui sont encore en cours d'amélioration, qui font le rapport de nos résultats. Ces nouveaux graphiques seront disponibles plus tard. Et j'aimerais préciser que tous les bureaux d'enregistrement doivent être conformes avec les ARTD et que 54 bureaux d'enregistrement ont réalisé leur premier dépôt de RDE et en ce moment nous étudions des bureaux d'enregistrement avec lesquels nous travaillons afin de les rendre conformes. Donc ceux-ci feront également partie du programme. Le contrôle d'IRTP. Sébastien, de quoi s'agit-il ? Je veux savoir ce que c'est RDE. Moi, j'aime bien les sigles, mais bon, faut arrêter. Eh bien, le bureau d'enregistrement a besoin que les bureaux d'enregistrement donnent des informations. C'est toujours mieux d'utiliser des termes simples, quelle que soit la langue. Merci. Donc, les informations sur les bureaux d'enregistrement qui sont fournies par les fournisseurs de services. Voilà. Donc, pour essayer d'économiser un peu le peu de temps qui nous est imparti, j'ai ici des transparents. Donc, celui-ci porte sur le contrôle de l'IRTP. Le contrôle a été réalisé l'année dernière, élaboré l'année dernière pour être réalisé cette année. Et vous voyez les différentes étapes qui sont testées. Nous considérons 120 transactions. Nous analysons ces transactions et nous partageons les résultats sur notre site web, ceci après la réunion de Bruxelles. Des plaintes clés que vous devez connaître. Nous travaillons sur le problème de la communication. Donc, premièrement, nous avons les communications sur l'UDRP qui aideront les clients à résoudre leurs conflits. Et deuxièmement, nous travaillons sur un accord d'accréditation. C'est un registre des accords sur les accréditations sous la section 3.7.7.3 et ceci permet au bureau d'enregistrement d'accepter la responsabilité ou de dévoiler l'identité du porteur de nom de domaine s'ils reçoivent l'avis par une partie tierce s'ils font l'objet d'une procédure de mise en œuvre. Donc, sur le site internet, ce texte est encore l'objet des commentaires publics. Donc, je vous demande vos contributions. Ceci nous serait très utile afin que ce texte puisse être publié l'année prochaine. Nous réalisons également des contrôles importants en ce qui concerne la section 3773 pour le RAA. Et parmi ces tâches, nous identifions les bureaux d'enregistrement qui n'ont pas inclus cette disposition dans leur accord d'accréditation. Et donc, nous attendons les premiers résultats avant le mois de septembre et nous devrions être à même de partager ces informations avec la communauté avant la prochaine réunion. Alors, le dernier élément que je voulais mentionner rapidement, c'est l'enquête sur l'information sur les contacts primaires et publics, parce que nous avons souvent entendu que les bureaux d'enregistrement ne mettent pas à jour leurs informations, non seulement sur leur site internet, mais également pour ce qui concerne les informations qui sont publiées sur le site internet d'ICANN. Et donc le but de cette enquête est de détecter ces bureaux d'enregistrement dont les informations ne sont pas à jour et de corriger ce problème avec eux, afin que les informations soient mises à jour à la fois sur leur site internet et sur le site internet d'ICANN. Et enfin, je ne sais pas si vous savez, mais deux projets de recherche ont été menés et nous y avons participé. Premièrement, l'étude sur les services d'enregistrement, sur la confidentialité et l'enregistrement à distance. Je pense que vous savez qu'un atelier sera organisé ce mercredi à 11h dans la salle 311-312 et nos consultants, le NORC, travaillera avec nous pour publier les remarques publiques que nous avons reçues afin de réviser cette étude et de décider des prochaines étapes. Je suis sûre que certains d'entre vous ont reçu notre nouvelle lettre d'information sur la conformité contractuelle qui va se poursuivre. Nous la publions sur notre site internet. Nous avons une version révisée, nous avons de nouveaux modèles et nous voulons faire part à la communauté des nouvelles mesures de mise en œuvre qui ne sont généralement pas remarquées parce que, bien sûr, nous n'en avons pas le temps lors de nos réunions. En ce qui concerne le travail de communication et notre effort pour atteindre le reste du monde, eh bien, nous essayons d'atteindre toutes les régions, en particulier Penlilo, qui est le directeur de la gestion des conflits dans la région Asie-Pacifique, a été très actif à Nairobi. Nous avons eu 18 bureaux d'enregistrement, un registre, un fournisseur de services UDRP, deux conférences sur de présentation, des révisions sur la conformité des bureaux d'enregistrement, etc. Donc, effectivement, le thème de la conformité est fortement traité en ce moment et nous allons poursuivre cet effort au sein de la communauté et c'est la raison pour laquelle nous attendons le retour de la part de la communauté sur les différents sujets que j'ai expliqués à l'écran afin d'identifier les problèmes de conformité pour la mise en œuvre, l'information ou simplement dans un objectif de communication pour en apprendre davantage sur les actions que nous menons. Et donc nous encourageons cette attitude, nous souhaitons améliorer le travail que nous réalisons en termes de conformité et nous pensons que ceci n'est possible que grâce à votre contribution étroite. Alors j'aimerais maintenant consacrer le peu de temps qui me reste aux questions. Bien sûr, je suis disponible tout au long de la conférence pour répondre à vos questions et discuter avec vous si nous n'en avons pas le temps aujourd'hui. Merci.
Merci pour la présentation. Je voulais vous poser deux questions. L'une, vous avez fait mention à la notion de la conformité de la mission du département de conformité qui pourrait changer d'un changement de mission. Quel serait le changement si ce n'est pas la conformité? Et la seconde question, est-ce que vous pouvez nous donner, pas maintenant, mais par courrier par exemple, des informations budgétaires concernant quelque chose qui pourrait illustrer l'historique de l'ICANN et des travaux de ce que l'ICANN a fait en termes de conformité? Ceci devrait être ascendant. Merci. Concernant la première question, nous sommes en train de travailler sur notre modèle de travail pour répondre aux questions urgentes et émergentes dans la version 5 de la version préliminaire du guide de candidature. La version 4 il le corrige et pas le 5, donc la version 4. Et nous travaillons étroitement avec l'équipe de l'ICANN pour voir quelles sont les ressources qui seront requises pour soutenir le lancement des nouveaux GTLD et comment les ressources seront incorporées dans le team, dans l'équipe qui sera chargée du travail avant la soumission de candidature et après. Nous commençons un dialogue concernant les modèles de conformité que nous devons construire pour soutenir les organisations et les autres besoins des groupes. Concernant votre deuxième question, les ressources, j'ai la joie de vous dire que l'exercice fiscal de l'ICANN commence en juillet et nous avons notre PAM qui est notre directeur en Asie-Pacifique. Elle est avec nous depuis un an. Elle a été très très présente, une présence puissante et beaucoup de contributions à notre travail en Asie-Pacifique. L'année prochaine, nous allons embaucher un gestionnaire de service WHOIS, Bureau d'enregistrement registre. Ce gestionnaire consacrera 100% de son temps à ce travail. J'en ai parlé avec Carl Pro et autres. Concernant donc l'accélération de la mise en application de notre travail concernant le WHOIS. Et nous avons aussi de la place dans notre budget pour l'expansion de notre personnel de contrôle. Nous avions projeté d'embaucher deux auditeurs, deux contrôleurs, mais heureusement, nous allons pouvoir avoir cette somme dans le budget pour que dans l'exercice fiscal prochain, nous puissions les embaucher. Je voudrais donc poser un défi à la conformité. Quelque chose qu'il fallait avoir depuis des années, c'est que la conformité demande des positions très claires, mains levées concernant les revendeurs. Nous n'avons pas de contrat avec eux, d'accord, et donc nous ne pouvons pas avoir d'application, d'imposition directe. Il faut travailler par le biais des bureaux d'enregistrement pour lesquels ils sont revendeurs. Et ceci ne dit rien concernant la conformité et ce que le département de conformité peut faire en matière de contrôle. Les revendeurs, on estime qu'ils sont environ 100 000 revendeurs. Deux des plus grands bureaux d'enregistrement ont 30 000 chacun, disent-ils. Et beaucoup de revendeurs ont des revendeurs eux-mêmes. Et nous ne savons pas quels sont leurs réseaux. Il est facile de trouver des revendeurs sur le web. Vous googlez pour des noms de domaine. Et vous avez beaucoup de revendeurs et ils ont une obligation implicite de respecter les dispositions du RAA parce qu'ils doivent rendre compte au bureau d'enregistrement et aux titulaires de nom de domaine. Mais beaucoup ne le font pas. Si vous allez sur un site de revendeur, vous ne trouverez pas l'accord d'enregistrement. Peut-être après avoir déposé ou payé la somme qu'on vous demande. Et on n'est pas en train de faire au moins une enquête pour voir ce qui se passe, pour pouvoir protéger les titulaires de noms de domaine. Si un grand nombre de titulaires de domaine innocents ont affaire avec les revendeurs, il y a une obligation très importante et très profonde de protéger ces titulaires de noms de domaine. Merci Alan, vous avez absolument raison. Je vais commencer par vous dire que vous avez raison. Donc, la mission de l'ICANN, surtout dans l'application de la conformité, est de protéger les droits des titulaires de noms de domaine. Je suis tout à fait d'accord. Nous travaillons de manière très diligente avec la sous-équipe sur le RAA concernant les propositions d'amendement et de modification du RAA. un grand nombre d'entre vous étaient hier au cours de la séance de travail. Il y a eu une discussion. Et vous verrez de la liste des sujets qu'ils proposent pour la modification, il y a donc un point concernant la conformité des revendeurs. Mais ceci avance lentement. Et si nous avions les ressources supplémentaires afin de mener un sondage, une enquête ou un audit concernant les modèles d'entreprise, les processus, les obligations concernant leurs accords à eux avec les bureaux d'enregistrement, nous allons le faire. Ces informations seraient très utiles pour la communauté, mais pour le moment, notre mission se concentre sur nos relations contractuelles. Et jusqu'au moment où le RAA sera plus modifié pour fournir plus de sensibilisation et de faire savoir concernant l'ICANN et concernant la gestion avec les bureaux d'enregistrement, nous allons pouvoir donc gérer la relation avec les revendeurs. Mais entre-temps, je vais sûrement examiner le moyen de pouvoir avoir un sondage ou d'examiner un peu plus l'existence de ces revendeurs sur la place du marché, bien sûr, pourvu que nous ayons les ressources financières nécessaires. Une réponse rapide. Le RAA s'applique à tous les bureaux d'enregistrement et sûrement à ceux qui sont importants comprendre des dispositions selon lesquelles les revendeurs doivent respecter toutes les conditions pertinentes du RAA. Vous n'avez pas besoin de modification ou de changement du RAA. Vous avez déjà des dispositions dans le RAA qui régissent la relation entre les revendeurs et les bureaux d'enregistrement. Je comprends la question de manque de personnel, mais je pense que c'est un domaine, une zone qui est de priorité absolue. Vous n'allez pas faire des sondages immédiats parce que vous ne savez pas qui ils sont, mais vous allez essayer au moins d'enquêter pour que vous puissiez protéger les titulaires de domaines qui sont les plus vulnérables. Et vous n'avez pas besoin de changement du RAA pour cela. Absolument, absolument. Je suis désolée, David, mais ceci n'est pas une réponse acceptable. Et la raison est que simplement, un bureau d'enregistrement a choisi un système de s'adresser à des agences. Ceci ne lève pas les obligations. Si la réponse est de ne pas courir après le revendeur, mais après le bureau d'enregistrement, à cause du comportement de leurs agents, faites-le de cette façon, mais vous ne pouvez pas lever les mains. Il y a une relation entre les bureaux d'enregistrement et les revendeurs. Ceci n'élimine pas l'obligation. Vous pouvez donc vous adresser aux bureaux d'enregistrement qui sont responsables des actions de leurs revendeurs. Je ne pense pas que vous puissiez dire que vous ne pouvez pas le faire parce que quelque chose qui n'est pas formulé. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus? Je ne suis pas très satisfait par votre réponse. Merci, j'ai bien noté le point. Et le point d'Alan aussi, il y a des formulations disponibles aujourd'hui sur lesquelles nous pourrions dépendre, desquelles nous n'avons pas commencé une enquête des obligations concernant ces obligations. Mais nous allons le faire et nous pensons affecter des ressources à cela. Nous avons des priorités d'application qui sont concurrentielles et nous essayons d'hiérarchiser les points pour le meilleur bénéfice de la communauté. Et c'est ça, c'est le point pour lequel la LAC pense que nous aurons le plus grand bénéfice, avantage pour la communauté, nous y réfléchirons bien sûr, nous y travaillerons. Concernant ceci, si le président directeur général veut affecter des ressources pour d'autres points, il faudrait affecter des ressources aux personnes qui sont le moins capables de se défendre eux-mêmes. Il ne faut pas affaiblir la possibilité, la capacité de l'ICANN à l'égard des revendeurs. Et les bureaux d'enregistrement vont prendre une position en disant que des dispositions qui ne sont pas explicitement mentionnées dans l'accord ne sont pas régies par les dispositions de conformité. Je viens de Nujadacom. Nous avons fait un sondage séparé de la conformité des bureaux d'enregistrement. Il est disponible publiquement. Si vous ne l'avez pas vu, posez-moi la question, je vous donnerai les coordonnées. Nous avons trouvé 162 bureaux d'enregistrement qui ne sont pas en conformité selon nos estimations. Et une grande partie concernait les services de base qui sont obligés de fournir. Et ceci comprenait l'accès au WIS. Et certains des bureaux d'enregistrement bloquent l'accès au WIS à travers le web. Et nous avons aussi soumis une plainte contre lasystème.com. Ils sont en train de manipuler leur propre enregistrement WIS. Ils sont les bureaux d'enregistrement pour leur propre site. Et si vous essayez de regarder ce site, il dit que ce nom n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'enregistrement WHOIS pour leur propre nom de domaine. Ceci est problématique et nous avons rencontré beaucoup de questions telles que celle-ci. Mais pour ne pas entrer dans les détails des rapports, je le donnerai à tout le monde et vous pourrez le consulter. Je voudrais mentionner le processus de conformité. David a mentionné la mise en application, les lettres d'imposition ne sont pas disponibles publiquement pour que les personnes puissent les consulter. Pourquoi? D'abord, je voudrais savoir pourquoi. Deuxièmement, concernant les bureaux d'enregistrement qui ont été désaccrédités, pourquoi il y a eu une désaccréditation? Vous verrez que ceci concerne surtout le non-paiement d'honoraires, la défaillance du point de vue sauvegarde de données. On ne touche pas donc l'extrémité consommateur du produit. Mais dans les audits, nous parlons de questions qui concernent les consommateurs. Je voudrais que l'équipe chargée de la conformité pense aussi aux consommateurs. Et aussi, enfin, le cycle de vie. Si vous allez sur le site, vous ne voyez pas vraiment dans quelle phase se trouve la question de conformité, si ceci a été remédié, si le bureau d'enregistrement a été arrêté, interrompu, vous le voyez bien sûr. Mais s'il y a les phases précédentes sont quelque chose que nous ne voyons pas. Et ceci serait bénéfique à tous les utilisateurs pour qu'ils puissent suivre le cycle de vie du traitement d'une non-conformité d'un bureau d'enregistrement.
Oui, bien sûr. Je vous remercie. Par rapport à la remarque que vous avez faite, nous créons en ce moment un processus qui permettra une meilleure visibilité du cycle de vie. Par exemple, aujourd'hui, on m'a posé la question du statut des messages qui sont postés sur notre site internet. Et donc, nous devons rendre ce contenu accessible pour que vous sachiez si un bureau d'enregistrement a répondu ou pas à temps à une mesure à un avis de mise à exécution. Donc nous prenons ce commentaire en compte et nous vous ferons part des informations à ce sujet. En ce qui concerne les avis de plainte, je ne pense pas qu'on ne puisse pas les poster. Je pense que par le passé, nous ne l'avons pas fait. Elles sont nombreuses, mais si nous pouvons encore une fois rendre cette information disponible sur notre site et ceci de façon compréhensible pour la communauté, eh bien, nous le ferons sans problème. Nous devrons simplement tenter de nous figurer comment organiser ces informations pour qu'elles soient intelligibles pour la communauté. Enfin, oui, j'ai effectivement reçu une copie de votre rapport et malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de bien le réviser, mais notre équipe portera une attention particulière aux plaintes contre les bureaux d'enregistrement et nous déciderons des mesures à prendre. Eh bien, j'aimerais quand même préciser pour le bienfait du groupe que ICANN a quand même un processus interne au moyen duquel il surveille l'accès au port 33. Et cet accès n'a pas forcément été visible par le passé, mais nous mettons sur pied un outil de plainte qui permettra au port, qui mettra en conformité le port 33, qui permettra de partager des informations sur le WHOIS, et ceci donnera lieu à des avis de plainte qui pourront être communiqués dans une période de moins de 12 heures après que l'on ait déterminé que le port 33 d'un bureau d'enregistrement ne fonctionnait pas. Et au cours des 12 heures suivantes, si ce port ne fonctionne pas, eh bien, le bureau d'enregistrement fera l'objet d'une plainte. Donc le WRPS, le système WRPS, utilisera ce système afin d'améliorer l'exécution de la conformité du port 33. Et enfin, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles certains bureaux d'enregistrement ont vu leur licence prendre fin, eh bien, principalement parce qu'ils n'ont pas payé leur frais d'adhésion à Cannes, mais si vous consultez le rapport, il y a 18 mois environ, une douzaine d'exemples étaient ceux de bureaux d'enregistrement qui avaient déposé des plaintes sur des questions liées au WHOIS. Et il y avait des problèmes par rapport au renouvellement du mot de passe. Mais nous n'en avons pas fait suffisamment dans ce domaine. Nous devons faire davantage. Et c'est la raison pour laquelle je demande à la communauté d'améliorer notre budget afin que nous ayons les moyens de nous concentrer davantage sur ces questions de port 33 et de nous améliorer. Je ne veux pas vous prendre par surprise, mais nous allons commencer ce processus sur le port 33 aujourd'hui et nous vous ferons part des résultats. C'est un processus très simple. Je ne sais pas quel niveau de complexité le vôtre a, mais le nôtre est très simple. Une remarque rapide, je l'ai dit sur le rapport ARTP, il y a des bureaux d'enregistrement très importants qui expliquent comment ils renversent les transferts de piratage et les difficultés qu'ils rencontrent à obtenir les informations de la part de certains bureaux d'enregistrement parce qu'ils ne fonctionnent pas ou ils bloquent les autres bureaux d'enregistrement, leur accès à l'information, ils ne fournissent pas ces informations. Et donc c'est très intéressant d'entendre également l'avis des bureaux d'enregistrement eux-mêmes. Et d'un point de vue candide, ICANN ne semble pas faire grand-chose vis-à-vis de ces bureaux d'enregistrement. C'est la perception qu'ont certains entre eux. Carlton, premièrement, j'aimerais faire part de mon point de vue. Je suis sceptique en ce qui concerne la question de conformité parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Si vous vous y connaissez un peu dans l'exécution, c'est un processus. Et au cours de ce processus, il y a différentes interventions et donc une infrastructure. Et il est évident que le fonctionnement doit être respecté au sein de ce processus. Il faut avoir la bonne infrastructure et il est clair pour moi qu'ICANN ne dispose pas de la bonne infrastructure pour exécuter la conformité comme il y est obligé. C'est très clair. Et David, même si vous avez vraiment essayé, vous n'aurez pas les moyens de faire ce que vous êtes censé être faire. Et donc, les efforts que vous devez fournir pour la conformité devront être encore plus fournis. Et il est évident pour moi que, au vu des expériences passées, vous demandez, vous avez déjà demandé une augmentation du budget au cours des deux derniers cycles de vie et on ne vous a rien accordé. Ce n'était pas suffisamment. C'est une organisation qui ne change jamais radicalement. Et même la pensée n'est jamais modifiée de façon radicale. Donc vous n'obtiendrez pas les ressources dont vous avez besoin. C'est évident pour moi. Ces problèmes seront permanents pour nous. Et je suis sûre que les nouveaux problèmes qui surviendront ne seront simplement pas abordés. Alors arrêtons-nous là. Vous l'avez dit vous-même. Le problème, c'est la forme, c'est la façon de penser ici. ICANN n'est pas à même d'effectuer une véritable exécution de cette conformité. Et tant qu'aucun changement ne se produira, nous serons dans la même situation. Eh bien, merci pour ces remarques. Comme vous le savez, je fais partie d'ICANN depuis environ un an et demi. Et auparavant, je travaillais chez Hewlett-Packard. J'étais directeur de l'exécution au niveau mondial. Et c'était un privilège, une grande entreprise qui fournissait des ressources humaines extraordinaires, un soutien extraordinaire. Ceci sous l'initiative d'une organisation très lucrative. Mais lorsque j'ai rejoint l'ICANN, j'ai réalisé qu'il s'agirait d'un défi très lourd à relever, mais en même temps qu'il s'agissait d'un rassemblement de talents qui attendaient encore d'être déployés. Et j'ai donc l'espoir que, en révisant les ressources au sein du personnel ICANN et en demandant à la communauté des changements de budget, eh bien, nous assisterons à un véritable changement. Peut-être pas de changement profond en 24 heures, c'est sûr, mais déjà depuis l'année dernière, nous avons fait un bon bout de chemin et nous sommes dans une meilleure situation aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 14 à 16 mois. Et bien sûr, nous avons encore énormément d'efforts à fournir. Et comme vous le dites, si l'engagement n'est pas confirmé et renforcé, nous ne répondrons pas à toutes les demandes qui existent. Mais donc nous devons changer et moi j'ai hâte de participer aux prochaines séances parce qu'il s'agit d'une façon de se remettre bien les pieds sur terre et de prendre conscience des changements qui sont nécessaires. Mais encore une fois, je lance le défi à la LAC de nous assister. Là où vous voyez des lacunes ou des problèmes dans nos performances, par exemple au niveau du budget, de l'infrastructure ou des investissements et de la fonction des plaintes, eh bien, n'hésitez pas à nous aider. Et en nous aidant entre nous, entre différents groupes, nous nous améliorerons, c'est sûr. Alan a une remarque très brève et ensuite nous clôturons. Oui, un suivi très rapide sur la question de Guy. Le problème de la transparence, l'idée d'ouverture. Parce que si nous parvenons à réunir toutes les informations, nous le ferons. Moi, je vous propose une démarche différente. D'abord, fournissez-nous toutes les informations et ensuite, nous réfléchirons à la présentation. Je pense que c'est un problème culturel chez ICANN en général. La position par défaut doit être la transparence plutôt que d'abord aller chercher la disponibilité publique sur un problème qui était considéré comme privé par le passé. Donc je vous propose de changer de point de vue et d'avoir cette position par défaut essayer de d'être transparent dès le départ. Ce n'est pas personnel, c'est une caractéristique culturelle de ICANN. Non, c'est tout à fait pertinent. Et encore une fois, comme je vous le dis, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Et donc, si ce n'est pas l'impression que vous en avez, eh bien, écoutez au moins mon engagement d'aujourd'hui. Nous mettrons toutes ces informations à disposition sur le site Internet. Et vous pourrez les examiner. Et peut-être qu'avec l'aide de la communauté et des autres, nous trouverons de meilleures façons d'organiser l'information et de la rendre utile à la communauté. Et peut-être pourrons-nous utiliser cette information de façon constructive. Donc je suis parfaitement d'accord. Merci David. J'aimerais faire une remarque parce qu'il me semble qu'il est important de le mentionner. Pour moi, David, depuis son arrivée, a constitué une sorte de rayon de soleil dans un tunnel très sombre. Alors, bien sûr, les commentaires qui ont été émis autour de cette table étaient particulièrement durs. Mais bien sûr, c'est ce que je veux. Je veux que vous leur disiez que vous avez exprimé vos besoins, vos desiderata, et que ces besoins portent sur le budget. Donc vous avez besoin de davantage de moyens. Évidemment, c'est un problème important, mais merci de votre contribution en tout cas.